Préparer la transmission de son exploitation agricole, de sa ferme, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Pour Arnaud Robin et Michel Mauguin, installés respectivement à Questembert et aux Forges de Lannoué, c'est une question qu'ils se posent et qu'ils se sont posés avec beaucoup de sérieux. On les retrouve au micro de Radio Brodjunet, à leur côté Clémentine Lebon, animatrice technique pour le CIVAM AD56. Elle nous présente les objectifs et les missions de son association.
Le CIVAM, c'est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et donc en fait, c'est une association d'éleveurs, dont Michel et Arnaud, qui sont avec moi, font partie, ils sont adhérents. Et c'est une association qui a pour but d'accompagner les paysans vers des systèmes autonomes et économes, donc moins d'intrants, plus d'autonomie, donc moins d'achats aussi extérieurs, voilà. Donc des systèmes plus durables, plus respectueux de l'environnement et qui permettent de gagner leur vie et de s'ancrer sur le territoire. Et donc nous, on est trois animatrices dans le Morbihan et on accompagne les paysans, surtout collectivement, mais aussi individuellement pour faire évoluer leurs pratiques.
Alors ensemble, on va notamment parler d'installation, de transmission. Donc à vos côtés, Michel Mauguin, vous êtes paysan en bovin lait. Vous êtes installé aux Forges de Lannoué. Depuis quand vous exercez ce métier ?
Moi, je suis réellement paysan depuis 1986. Auparavant, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. J'ai été un petit peu aide familiale sur la ferme de mes parents. Et puis j'ai quelques expériences à l'étranger, outre-mer, un petit peu en Afrique, il y a quelques années, un petit peu en Israël, un petit peu en Europe aussi, en Suisse et en Roumanie par exemple.
Et aux Forges de Lannoué, sur votre exploitation, qu'est-ce qu'on y trouve ? Quelles sont vos activités ?
Mes activités, c'est essentiellement des vaches laitières, donc ça consiste à les élever, s'en occuper, et surtout la traite bi-quotidienne pour une partie de l'année. On est très occupé à cette époque-ci, l'hiver, surtout par cette période un peu pluvieuse. On passe beaucoup de temps aux soins des animaux. Et c'est essentiellement la meilleure saison pour nous, c'est quand le printemps va arriver, que les animaux seront dehors. Donc là, on y prendra vraiment plaisir.
Et est-ce que c'est une exploitation des terrains peut-être qui ont évolué depuis 1986 ?
Ça a beaucoup évolué, c'est vrai qu'en 1986, moi j'avais quitté l'école il y a quelques années, et on était plutôt sur des systèmes, enfin dire, désormais on les appelle conventionnels, mais à cette époque-là, c'était la norme, c'est-à-dire qu'on faisait du maïs en silage pour nourrir les animaux, on faisait des prairies, on faisait également des céréales. Donc c'était la polyculture élevage. Et au fil du temps, on s'est spécialisé, donc on a plutôt diminué le maïs, qui ne convenait pas très bien, qui ne convenait pas très bien aux animaux non plus, et au profit de systèmes de surface de pâturage supplémentaire. Donc l'évolution, ça a été vers plus de pâturage et quelque part plus d'autonomie, et aussi un métier plus sympathique.
Alors qu'est-ce que vous appelez plus sympathique ?
Plus sympathique, c'est-à-dire que quand on fait du pâturage, on passe beaucoup de temps à accompagner les animaux, refaire les clôtures, donc c'est plutôt du travail manuel, on va à pied dans les prairies. Quand on fait plus ou moins de culture, eh bien on a moins de tracteurs à faire, moins de labour, moins de traitement chimique et moins de récolte aussi. Donc sympathique, c'est aussi profiter du plein air, du bocage qu'on a planté, qu'on a entretenu.
Arnaud Robin, est-ce que les éléments qui viennent d'être présentés par Michel Mauguin, est-ce que ce sont des éléments qui font écho dans votre esprit ?
Oui, nous c'est le cœur de notre métier également sur la ferme. Donc on élève des vaches laitières également et on transforme le lait en produits laitiers qu'on vend en direct. On a 20 vaches environ et on est deux associés et 2,5 salariés à peu près. Et effectivement, donc on est en système herbager, pâturant au maximum. Et moi, je n'aurais pas pu m'installer sur un système classique avec alimentation des animaux à l'étable par du maïs en silage, et ce qui permet de corriger le maïs en silage.
Alors justement, on va revenir sur la question de l'installation et sur votre installation, Arnaud Robin, il y a quelques années. Vous-même, vous étiez à la base en lien avec le milieu agricole, et comment vous êtes formé ?
Alors moi, mes parents sont agriculteurs encore. Ils étaient éleveurs de vaches, vaches laitières et puis chèvres. Ils font plus que de la chèvre maintenant. Et donc moi, j'ai connu toute mon enfance avec ce système en silage maïs-soja, et des vaches qui sortent peu, où la pâture, c'est un moyen de se dégourdir les jambes plus que de se nourrir. Et moi, je ne me suis jamais retrouvé, parce que je n'ai jamais été passionné du matériel et des bâtiments. Ce qui m'intéressait, c'était les animaux, et puis tout ce qui entoure l'environnement naturel des animaux, c'est-à-dire les haies, les prés. Et je ne me suis jamais retrouvé dans mon milieu agricole d'origine, parce que quand on discutait avec les copains d'école, c'était souvent qui a le plus gros tracteur, qui a la plus grosse machine. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas un monde pour moi, le monde agricole. Et pour autant, j'aimais beaucoup les animaux, le soin des animaux, l'entretien des haies, la nature. Donc j'ai fait des études, donc j'ai fait un bac agricole, et ensuite des études plutôt environnementales. Et voilà, et ensuite j'ai fait beaucoup d'intérim, je suis passé par plein de métiers différents, et j'ai repris mes études plutôt en sociologie, donc sociologie appliquée au milieu rural et agricole, que j'ai terminé en 2014, en faisant des jobs à côté, hein. J'ai toujours travaillé à côté de mes études, parce qu'il fallait bien manger, et j'ai découvert en sociologie des milieux ruraux et agricoles, hein, sur mes spécialités, les systèmes herbagers et pâturants. Et là, je me suis dit, en fait, l'agriculture que je connais depuis que je suis tout petit, où les gens se plaignent beaucoup, où on est souvent sur le tracteur, où celui qui fait le plus gros rendement est celui qui est toujours le plus valorisé, j'ai rencontré des paysans, finalement, qui gagnaient bien leur vie, qui étaient dehors, qui parlaient d'autre chose que de tracteur, mais plutôt d'environnement, la manière dont ils l'entretenaient pour favoriser le bien-être de leurs animaux. Et du coup, je me suis dit, mais ça me parle. Et en fait, je suis paysan, quoi. Et donc là, l'idée était germée. Et puis, j'ai fait différents stages. J'ai rencontré beaucoup de paysans des réseaux CIVAM, donc en système herbager. Et puis, j'ai calibré dans ma tête ce que ce serait que l'installation pour moi. Et voilà, je me suis installé en Morbihan en 2016. J'ai suivi ma compagne qui s'est installée, qui a trouvé un travail ici. Et j'ai été à vélo voir les fermes autour en système herbe bio. Et la première que je suis allé voir à 3 km, c'était celle dans laquelle je me suis installé il y a un an et demi.
Je voulais rebondir justement sur cette question, sur votre lien à ce métier qui est sans doute un peu plus, voire beaucoup plus qu'un métier. Cette vision, ce regard que vous portez tous les deux, le fait d'avoir fait évoluer aussi ce regard, comme vous venez de nous le dire, Arnaud Robin, est-ce que vous avez l'impression que quand vous parlez, quand vous échangez avec vos anciens camarades ou quand vous en parlez peut-être dans vos familles avec d'autres agriculteurs, vous avez l'impression qu'il y a peut-être pas de discorde, mais que c'est un discours qui parfois est difficile à faire entendre? Ou est-ce que ça, c'est une impression qu'on peut avoir de l'extérieur, mais que ce n'est pas aussi simple que ça? Michel Moguin?
Je vais répondre. C'est vrai que quand on dit qu'on est paysan à des gens qui sont non paysans, en fait, plutôt des citadins, ils nous regardent un peu avec un regard interloqué en disant c'est compliqué, c'est dur et globalement, vous ne gagnez pas votre vie. Mais tout ça, c'est un peu lié au fait que notre profession a plutôt tendance à se plaindre, entre guillemets, à manifester. Hein. Les dernières qu'il y a eu violentes en Morbihan, c'était en janvier 2016, là, vraiment des manifestations violentes, de blocage de route, etc. Si bien que ce regard-là, donc, peut-être, les manifestations peut-être légitimes, la manière dont elles ont été menées, bon, moi, je ne les cautionne pas. Et quelque part, le fait d'avoir des choses vraiment violentes comme ça, eh bien, ça discrédite pas le métier, mais ça fait croire qu'il est vraiment compliqué, difficile et que c'est dur pour nous, quoi.
Oui, moi, quand j'en discute avec d'autres agriculteurs, en tout cas, il y a un peu un regard, voilà. Nous, c'est une petite ferme. Quand je dis 20 vaches, ça fait pas rêver, quoi. Et du coup, moi, je parle de mon métier avec mes valeurs et comment je les incarne. Je souhaite les incarner dans mon système, vraiment avec une veille importante sur la qualité environnementale du site. Et après, moi, j'ai ma famille, hein, d'agriculteurs ou des amis. Donc, ils ont leurs propres valeurs et ce qui les mène au travail. Mais en même temps, beaucoup de mal-être. Et du coup, moi, je leur dis juste comment je fonctionne, mais je me positionne pas du tout en... C'est pas un dogme, quoi. Ce que moi, je vis, c'est peut-être pas transposable. En tout cas, j'explique juste que ce qui fait que je le vis bien, c'est le système herbagé. C'est-à-dire que c'est un système peu coûteux. Et du coup, j'ai un coût alimentaire pour faire 1000 litres de lait qui est très réduit. C'est-à-dire que tout le reste, c'est de la plus-value qui est captée. Et du coup, ça me laisse beaucoup de souplesse dans mon temps de travail. Et j'explique juste ça. Après, les gens s'en saisissent ou pas. Il y en a des qui sont passionnés de matériel. Et du coup, avoir un gros tracteur, pour eux, c'est très important. Maintenant, je les vois aussi, ces mêmes personnes, sur les manifestations ou dans la plainte ou dans le conflit aussi avec les voisins. Et voilà, moi, j'invite juste à dire que les modèles, ils sont très diversifiés. Et on peut... voilà, les transitions sont possibles. Et puis, il y a des modèles dans lesquels on vit bien. On est en harmonie aussi avec l'environnement et avec ses voisins. Et voilà, c'est...
Et peut-être que quand vous entendant, certains agriculteurs ou certaines agricultrices vont peut-être dire « D'accord, c'est possible, effectivement, vous avez pu atteindre ces modèles-là, mais que ça ne pourrait pas être la majorité ou que ça ne pourrait pas être la norme. » Qu'est-ce que vous répondez à ce type de discours ?
Ben oui, moi je force personne à avoir tel ou tel système. L'important, c'est qu'il faut bien... incarner et assumer les conséquences de son système. C'est-à-dire qu'un système, un gros élevage hors sol, voilà, ça peut avoir une raison pour la personne qui le mène, maintenant qu'il en assume l'ensemble des conséquences. C'est-à-dire d'avoir des gros capitaux à transmettre ensuite, ça peut être compliqué. Donc il faut le savoir. On ne peut pas dire... Enfin, c'est difficile de tenir le discours « je produis beaucoup de lait sur un système hors sol » et en même temps de dire « je préserve l'environnement », parce que d'emblée, on amène la nourriture tous les jours aux animaux, donc on a de la consommation de carburant. Voilà, il faut assumer en fait ce pourquoi on veut faire le métier. Et si c'est le hors-sol, parce que s'il est assumé et choisi, parce que j'aime la technologie, eh ben pourquoi pas. Mais si c'est subi, là, ça devient un problème.
Alors évidemment, nous n'allons pas pouvoir aller jusqu'au bout de toutes ces réflexions, de tous ces sujets, puisqu'on pourrait également évoquer les sujets d'actualité de ferme-usine, cette expression également d'agribashing, mais nous aurons l'occasion sur notre antenne d'en reparler. Mais juste avant de passer au cœur de ce qui nous concerne aujourd'hui, on a évoqué la question des animaux, évidemment, donc en l'occurrence des vaches laitières. Comment se pose la question de la race des vaches que l'on retrouve sur vos fermes, sur vos exploitations, Michel Mauguin?
Oui, traditionnellement, historiquement en Bretagne, on avait une race qui était dominante, c'était la Bretonne pinoire. On a dû avoir jusqu'à 300, 400 000 bêtes entre la guerre et les années 60. Et rapidement, en 10-15 ans, cette race-là était pratiquement décimée pour redescendre au niveau d'un millier de vaches à peu près, et tout ça au profit d'une vache noire et blanche qui venait d'abord des Pays-Bas, qui s'appelait la Hollandaise ou Frisonne.
Et c'est celle qu'on appelle la Primolstein ?
Désormais, elle s'appelle Primolstein, oui, c'est ça. Primolstein, parce que... prime, pas très élégant comme nom de race, mais enfin, parce qu'elle était la première en nombre sur le territoire français, quoi. Donc ça, c'est le nom français. Et sinon, en Bretagne, on avait d'autres races locales qui sont désormais exploitées aussi, mais plutôt dans des circuits comme Ferno, des circuits courts, là, avec des valorisations en produits transformés, surtout en produits laitiers et quelquefois en viande également. Et sinon, la Bretagne a la capacité à élever, pouvoir élever tout type de race. On y trouve de la Normande, on trouve des brunes nasales, on trouve de la Jerseyaise, on trouve de la Simmental, de la Montbéliarde, etc. Donc, chez moi, par exemple, moi j'ai environ 5 ou 6 races, mais c'est des vaches, elles sont métissées. Donc on utilise beaucoup de croisements. Et le croisement, bon, c'est très technique, mais on favorise l'effet d'hétérosis. Donc on a des animaux qui sont très résistants et qu'on peut facilement adapter au pâturage, au fait de marcher aussi pour rejoindre les prairies, donc avec des pieds solides, et des animaux qui sont qui durent longtemps, qui vivent longtemps, parce que le croisement améliore les critères de longévité.
Arnaud Robin ?
Nous, on a plusieurs races différentes. Alors nous, on est sur un système, alors on a des races qui sont historiques sur la ferme, Donc Bretagne Pinoire, mais il y en a très peu maintenant. On est plutôt sur Montbéliard, Normande, avec des Holstein, mais qu'on croise également. L'idée, c'est... nous, le choix de la race et des croisements, c'est en fonction surtout de la manière dont le gabarit de la vache pèse sur les pâtures. Donc nous, on a des terrains qui sont plutôt en coteaux, un peu séchants, des sols peu profonds. Donc des gros gabarits abîment moins le sol, par exemple. Je pense qu'on aurait des terres plus humides, on irait plus sur des vaches légères. Donc ça, c'est vraiment le choix de la vache par rapport à son terrain. Et puis ensuite, par rapport à ce qu'on souhaite transformer et ce qu'on veut transformer en produits laitiers. Bretonne Pinoire fait un lait gras qui convient bien à tout ce qui est crèmerie. Mais ensuite, pour un lait fromageable, le gras n'est pas nécessairement désirable en grosse quantité. C'est plutôt un rapport taux de gras et taux de protéines qu'il faut qu'on recherche. Donc là, c'est pour ça qu'on est un peu plus sur la Montbéliarde et puis la Normande, mais qu'on croise avec des races type Abondance, plus fromagère.
Thank you.
Nous sommes toujours avec Michel Mauguin, paysan en bovin lait, installé aux forges de Lannoué, Arnaud Robin, installé à Questembert, et Clémentine Lebon, animatrice technique pour le CIVAM 56. Alors Clémentine, on parle aujourd'hui d'installation, de transmission. Quels sont les principaux freins, les principales problématiques quand on souhaite s'installer à l'heure actuelle en agriculture ?
La transmission agricole aujourd'hui, c'est un enjeu majeur puisque quand on regarde la pyramide des âges, d'ici 10 ans, il y a plus de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc ça veut dire plus de 50% d'agriculteurs à remplacer en fait avec des nouvelles installations si on veut conserver la population agricole actuelle. Après, l'autre solution, ça serait d'aller à l'agrandissement et donc il y aura moins d'agriculteurs sur des plus grosses fermes. Nous, c'est même pas du tout ce qu'on défend au CIVAM. Donc nous, on est plus partisans de multiplier les fermes, conserver des actifs agricoles sur les territoires, garder des fermes à taille humaine. Et aujourd'hui, le renouvellement des fermes, il se fait de moins en moins dans le cadre familial. Donc c'est beaucoup de porteurs de projets qui arrivent hors cadre familial ou même carrément, comme Arnaud qui ne s'est pas installé sur la ferme de ses parents, mais même beaucoup de porteurs de projets non issus du milieu agricole et qui du coup arrivent avec d'autres envies, notamment sur des questions de contraintes, d'astreintes, de temps de travail, d'avoir de la liberté, de ne pas investir forcément trop dans l'outil qu'ils vont acheter, la rentabilité de leur outil. Et puis il y a beaucoup de questions aussi sociétales, éventuellement les questions de vente directe, la reconnaissance aussi sociale du métier qu'ils vont faire. Est-ce que c'est en adéquation sur les questions environnementales, etc. Donc c'est plus les mêmes personnes qui s'installent aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Donc voilà, il y a aujourd'hui les fermes à vendre sont pas forcément en adéquation avec les souhaits des porteurs de projets. Donc le travail qu'il y a à faire, c'est comment on fait se rejoindre les deux en fait. Donc il y a des deux côtés en fait du travail à faire, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui les installations en bovin lait, il y a très peu de porteurs de projets dessus, mais parce qu'il y a aussi des freins, comme disait Michel tout à l'heure, sur la représentation du métier d'éleveur, avec une image très négative, avec pas de revenus, avec beaucoup de travail, des astreintes, pas de week-end, pas de vacances, ce qui est, je pense Arnaud et Michel en parleront beaucoup mieux que moi, ce qui n'est pas forcément le cas en fait, selon sur quel modèle on s'installe, et notamment les systèmes herbagers, si on s'installe en collectif, ça peut être très différent. Donc c'est aussi lever ces représentations vers les porteurs de projets. Et après, l'autre travail, c'est comment on accompagne les paysans à préparer leur projet de transmission, parce qu'en fait, concrètement, ça s'anticipe presque 10 ans à l'avance, voire, on va en parler Arnaud, je pense, tout à l'heure, ça s'anticipe presque à l'installation, en fait. Comment sa ferme, elle peut être prise derrière. Et ça, c'est vraiment un gros travail à faire parce que aujourd'hui, les paysans ne sont pas forcément sensibilisés au fait qu'il faut anticiper sa transmission si on ne veut pas que la ferme elle parte à l'agrandissement et qu'on veut préserver le cadre de vie dans les campagnes.
Alors justement, Michel Mauguin, vous, en ce qui vous concerne, depuis quand vous posez la question et vous préparez justement la suite pour votre ferme ?
J'ai commencé il y a un peu plus de 5 ans. C'est vrai que dans les journaux, dans la presse, on disait une cessation, ça s'anticipe 5 ans avant la date prévue. Donc moi, c'était il y a un peu plus de 5 ans. J'avais commencé par faire une formation avec nos collègues du CIVAM 35, installation transmission. Donc une formation de 5 jours sur 5 semaines différentes. Et donc là, c'était vraiment aborder la transmission. C'était pas, même pratiquement pas d'ailleurs, sur quel montant je vends ma ferme. C'était surtout comment l'aborder soi-même, comment retrouver un repreneur, pardon, et également comment la valoriser pour qu'elle attire quelqu'un. C'était une formation comme ça. Et du coup, moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Je suis dans la catégorie, on appelle ça cédant désormais, et j'ai toujours pas transmis ma ferme. J'ai eu plusieurs candidats. J'ai même une personne qui a fait un contrat de parrainage avec moi pendant quelques mois, et au bout de 8 mois, elle a dit cette ferme-là ne m'intéresse pas. Donc je me suis retrouvé, moi, cédant à la case départ. Et je suis toujours dans cette situation-là. Donc je recherche un ou une repreneur ou plusieurs repreneurs pour transmettre ma ferme.
Et vous avez l'impression, dans les différents contacts que vous pouvez avoir avec des repreneurs potentiels, qu'il y a cette nécessité de rassurer les personnes sur le métier, sur les réalités de votre ferme ?
Les rassurer, pas spécialement, parce qu'en fait, ce que disait Clémentine tout à l'heure, il y a beaucoup, enfin, la plupart des candidats sont non issus du milieu agricole. Donc, il y a vraiment pas forcément une adéquation entre moi, ce que je peux proposer, mes vaches, mon étable, le matériel, la ferme telle qu'elle est. Quand moi, j'avais mis le paquet sur aménager le parcellaire pour avoir des parcelles vraiment accessibles. Les trois quarts de ma ferme sont accessibles aux animaux. Toute ma carrière, pendant un peu plus de 30 ans, mon père auparavant avait fait des plantations. Donc, toutes les parcelles sont entourées de haies et de talus. Donc, vraiment, moi, j'apprécie de travailler dans ces conditions-là, avec ce bocage tout autour. Et les gens qui sollicitent la ferme, souvent, les projets sont vraiment, des fois, vraiment très, très éloignés. Moi, j'ai entre 35 et 40 vaches, et entre des repreneurs qui veulent travailler avec 5 vaches. Une fille qui voulait aussi quelques vaches et faire de la culture attelée, donc travailler avec des chevaux, toute seule. Donc il y a vraiment des choses, moi je suis tombé un peu des nues quand j'ai entendu ça, sachant que moi j'ai connu l'époque où mon père a travaillé avec un cheval, et le jour où il a pu acquérir un tracteur, le cheval est vite parti dans la bétaillère. C'est vrai que ça fait, pour moi, ça fait un petit peu retour en arrière. Et des projets qui sont, on va dire, un peu déconnectés de la réalité au quotidien.
Alors juste pour rebondir peut-être sur cette question-là, puisqu'on est on revient sur la question de la perception, de la vision et peut-être aussi des valeurs. Cette question de ce qu'on pourrait parfois appeler un retour en arrière, est-ce que c'est une chose à laquelle vous êtes souvent confronté au CIVAM ?
Alors nous au CIVAM, actuellement, on travaille sur la question de l'installation et transmission, mais surtout la question de la transmission, en fait. Pour l'instant, là, on est en train de faire une formation justement de 4 jours sur la transmission. Là, il y a eu déjà 2 jours de passé. Mais on n'accueille pas des porteurs de projets. Donc, le parcours installation, aujourd'hui, il est quand même assez cadré, avec des structures bien identifiées. Donc, nous, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est quand on a une annonce, par exemple l'annonce de la ferme de Michel, on peut mettre en contact avec un potentiel porteur de projet, mais nous, on n'accueille pas les porteurs de projet, on les accompagne pas là-dedans. Donc, on est peut-être un peu moins confrontés. Après, oui, aujourd'hui, les projets d'installation sont différents des projets dans lesquels étaient les personnes qui cèdent aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu d'arriver à dialoguer. Mais après, ce que Michel, t'as dû aussi travailler dans ta formation, c'est aussi comment on laisse de la souplesse dans son outil pour permettre à quelqu'un de se l'approprier différemment de ce qu'il est actuellement. Mais après, dans quelle mesure c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans quel sens on peut tordre ou pas l'outil? Jusqu'à quel point? Ça dépend des fermes aussi, quoi.
Voilà, on perçoit en tout cas les freins et peut-être les biais pour contrer éventuellement ces freins. Michel Mauguin, est-ce que, à l'heure actuelle, vous avez une date limite? Est-ce que vous avez des échéances pour lesquelles il vous faut avoir trouvé quelqu'un pour reprendre l'exploitation, la ferme?
L'échéance, ce sera plutôt ma santé, mes épaules, mes bras, etc. On a cette chance-là, en étant paysan, agriculteur, c'est de pouvoir continuer jusqu'à 70, 80, etc. Donc, tant qu'on cotise à la MSA, on peut toujours être paysan. Donc après, il y a des gens qui restent paysans longtemps avec une toute petite activité ou d'autres revenus. Donc moi, j'ai pas d'échéance comme ça. Donc par contre, j'ai déjà j'ai ma troisième année de sursis par rapport à, on va dire, mes droits à la retraite. Je pense que dans quelques années, enfin un an ou 2 ans maximum, faudra que ça cesse, quoi.
Arnaud Robin, vous êtes installé à Questembert depuis 2019, mais en fait sur une ferme que vous connaissez bien depuis 2016, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours?
Quand j'ai décidé de m'installer, il fallait que je visite des fermes pour savoir ce qui me convenait moi et ce qui ne me convenait pas dans ma façon de faire mon métier. Et en fait, cette ferme-là, elle rassemblait un peu, d'une part, ce qui me convenait Et deuxièmement, une souplesse pour aller un peu plus loin et développer ce que j'aime, ce que j'aimerais développer. C'est-à-dire que l'existant me plaisait bien, était en connexion avec mes valeurs, et j'avais une certaine souplesse pour pouvoir aller un peu plus loin et le développer tel que je voulais le développer. Donc voilà, ça tient en tout cas sur la transmission. Donc la personne qui avait la ferme avant, il a arrêté en 2007. Donc c'était un système herbe. Tout en pâture, il y avait juste un hangar, donc très peu de capitaux. L'ensemble du matériel de culture était en commun avec une Cuma. Donc c'est une ferme qui a été transmise, il y avait 10 candidats dessus, qui a été transmise à Vincent d'abord, qui s'est installé en 2007. Et puis ensuite, mon collègue Pierre est arrivé en 2013, ils ont fait un GAEC. Le GAEC a racheté la ferme et eux, ils ont mis chacun des parts sociales. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai remplacé Vincent. Et donc, j'ai payé ma part sociale, quoi. Mon entrée, quoi, si on veut. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, l'intégration dans une société, c'est un peu plus simple parce qu'on paye les parts sociales, hein, d'entrée. Donc, on a des prêts professionnels après sur le revenu ou le prélèvement qu'on prend dans le GAEC. Il faut retirer ces prêts professionnels pour payer cette entrée-là, cette part sociale. Là où ça aurait pu être bloquant, c'est dans les comptes courants associés, dans un système en GAEC. C'est en gros, c'est le gros frein. C'est-à-dire qu'on a la part sociale qu'on met au départ, qui est réévaluée au départ de la personne qui s'en va. Et puis, les comptes courants associés, c'est-à-dire que c'est tout ce qui n'a pas été prélevé par la personne qui s'en va du GAEC, et qui sont considérés comme un dû. Donc parfois, la ferme... On envisage un revenu à 1 200 €, et puis finalement, la ferme ne permet pas de rémunérer à 1 200 €, donc on ne se rémunère que 1 000 € par mois, et puis au final, y a tout le solde que la ferme doit à la personne qui s'en va. Et ça, c'est très très bloquant pour la personne qui veut reprendre, parce qu'elle se retrouve avec un outil qui économiquement vaut une certaine somme, à laquelle se rajoute l'ensemble de ce qui est dû à la personne qui s'en va. Donc ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que la transmission, y compris en GAEC, elle se prépare 10 ans à l'avance, voire à l'installation. Quel garde-fou on met pour éviter ces gonflements de reprise. Donc nous, c'est ce sur quoi on travaille à la ferme beaucoup aussi, quoi.
Alors justement, effectivement, Clémentine Lebon nous l'avait dit, dans l'idéal, ça s'anticipe et ça se réfléchit dès le début. Donc ça veut dire qu'en ce qui vous concerne, Arnaud Robin, vous avez déjà des choses qui sont pensées, qui sont anticipées. Pour vous-même, pour le futur, quand vous allez transmettre.
Il y a plusieurs choses. Donc, on distingue vraiment notre partie famille et la partie travail. Donc, en fait, on a un revenu qu'on se prélève et on a mis en place un système, notamment grâce aux échanges avec les paysans du CIVAM, le système herbager, c'est-à-dire la diminution drastique des charges alimentaires pour nourrir les animaux et puis tout ce qui est annuité, c'est-à-dire lié aux investissements, parce qu'on travaille avec la CUMA, donc on a des investissements en commun avec un groupe d'agriculteurs, de 15 agriculteurs hein, de tout système, et du coup on a des charges réduites. Donc déjà ça c'est une technique, c'est-à-dire qu'en gros la plus-value on veut pas la capter à la fin quand on part, avec un gros chèque qui est fait par le repreneur, mais on veut la capter vraiment pendant notre métier, c'est-à-dire que c'est vraiment notre travail qui va faire notre revenu. Donc ça, c'est la première technique. Ensuite, en part sociale, on a donc dans le règlement intérieur, on a rajouté une clause pour ne pas la réévaluer en cas de départ. Donc c'est-à-dire qu'elle reste fixe. Aujourd'hui, elle est à 33 000 €. Et les comptes courants associés, donc ils sont faits par des prélèvements non perçus, donc ils sont dus, ou alors par un résultat d'exercice qui est positif. Dans ce cas-là, il va automatiquement dans les comptes courants associés. Mais on peut aussi le mettre en report à nouveau. Alors, c'est un exercice comptable, mais on peut ne pas le mettre sur les comptes courants associés. Et nous, on a fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a un résultat positif, on le met en partie à report à nouveau et tout ce qu'on a en trésorerie, on le redistribue aux associés et aux salariés à part égale. Donc, pour nous, c'est important aussi cette question-là dans la société. C'est, donc, on ne veut pas remplacer les salariés par des machines, quoi. C'est vraiment... On a une attache particulière au temps de loisirs. Donc, on a une demi-journée de libre par semaine chacun, en tant qu'associé. On travaille qu'un seul week-end sur trois. On commence à 7h, on finit à 18h30. Et puis, on a 6 semaines de vacances par an. Donc, vraiment, on s'organise pour avoir du temps libre. Et du coup, on a 2,5 salariés plus le chauffeur de la Cuma en commun. Donc ça fait, c'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel on se met pas de frein en fait.
Alors on a pu identifier d'une part les problématiques, mais également les différentes choses que vous avez pu mettre en place en lien direct ou indirect avec ces questions d'installation et de transmission. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'État, des institutions, peut-être des lois ou des règles, des choses pourraient être mises en place pour justement simplifier, voire faciliter ces cas?
Oui. En fait, là, on est au niveau de la politique agricole commune, on est en période de négociation pour la prochaine PAC qui est reportée d'année en année. Je crois que désormais, ce sera 2022. Donc, comme chacun sait, les paysans sont beaucoup aidés, et aidés pas forcément à l'actif, même pas du tout à l'actif, surtout aidés en fonction du volume économique de la ferme. Donc, globalement, plus la ferme est grosse, plus le paysan peut recevoir d'aide, et sachant qu'actuellement, au niveau de l'Union européenne, le plafonnement, il y a un plafonnement, mais il est à 300 000 euros par exploitation. Donc on peut imaginer, enfin, le projet de la future PAC est de diminuer, on parle de 50, 60 000 euros. Et nous, on peut dire aussi, enfin, SIVAM et paysans, qu'on pourrait réorienter les aides agricoles plutôt à l'actif, vraiment essentiellement à l'actif, et de façon vraiment à inciter les gens à s'installer, et aussi inciter et encourager les gens à s'installer, y compris sur les petites surfaces.
Non, aujourd'hui, nous, donc en aide et en subvention, on a 200 000 euros de chiffre d'affaires, si on veut parler chiffres, et on est à peu près 12 000 euros de subvention. Donc c'est très très peu. En fait, on a souvent tendance à croire que les systèmes bio et environnementaux sont très subventionnés, et c'est pas le cas du tout. Enfin, par rapport au chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose, quoi.
Clémentine Lebon, au niveau du CIVAM, on a vu qu'effectivement, on a entendu, on a compris que des choses avaient été mises en place pour accompagner les agriculteurs, les paysans. On a parlé notamment de formation. Comment ça se passe et comment on fait pour rentrer en contact avec le CIVAM, ou peut-être plutôt pour intégrer le CIVAM?
Alors pour intégrer le CIVAM, c'est très simple, il suffit de nous contacter. Donc le CIVAM AD56, donc on est basé près de Vannes, il y a nos coordonnées sur internet, peut-être sur votre site.
Les coordonnées et le site internet sera retrouvé sur le podcast et sur le site radiobreizh.bzh et rbg.bzh.
Et du coup, l'idée c'est que nous on peut faire des rencontres déjà individuelles avec les personnes qui nous contactent. Il y a la possibilité aussi d'intégrer des groupes CIVAM, et puis après nous on propose, donc là c'est la première année qu'on propose ça, une formation pour préparer sa transmission, et donc là c'est une formation de 4 jours un peu sur le modèle de ce dont parlait Michel, pour vraiment réfléchir son projet et le construire collectivement. Donc c'est pareil, nous on travaille beaucoup sur l'éducation populaire, donc l'idée de co-construire entre paysans son projet et de s'entraider, et voilà. Et puis l'idée, c'est on avait peur de pas réussir à mobiliser les cédants, et finalement ça a été pas si compliqué que ça cette année. On a réussi à remplir la formation, on a même des gens sur liste d'attente, donc on pense que à l'automne on va en refaire une, qu'on va reproposer. Donc voilà, si des gens veulent nous contacter, adhérer à l'association, être accompagnés. Après, on a aussi on est en contact avec beaucoup d'autres structures qui accompagnent ces questions d'installation et de transmission sur le territoire. Et l'idée, c'est qu'on travaille en réseau tous ensemble. Et puis après aussi l'important c'est aussi d'échanger entre paysans, donc aussi trouver des gens qui ont des problématiques communes et de faire des contacts, d'aller sur des fermes et d'échanger avec d'autres personnes qui ont pu rencontrer ces questionnements, parce que finalement nous en tant qu'animatrices on travaille pas sur une ferme, donc on est moins au fait des problématiques que quelqu'un qui est confronté tous les jours.
Pour aborder le CIVAM, le meilleur moyen c'est nous les paysans adhérents du CIVAM de coopter un collègue, un voisin, un copain, un frère, un vieux copain d'école. C'est souvent le meilleur moyen, quoi. D'abord, si c'est un voisin, mais il sait à peu près comment on fonctionne. Il peut être attiré. Le voisin peut être aussi englué dans un système, comme disait Arnaud tout à l'heure, du matériel, beaucoup de vaches, des journées à rallonge, à n'en plus finir, parfois des soucis financiers. Et donc, ces voisins-là qui s'interrogent, nous, paysans adhérents du CIVAM, on se doit d'aller vers eux, au moins de leur proposer, venir un jour à une formation, savoir ce qu'on fait, comment on travaille, Et la particularité des CIVAM, c'est à l'inverse de parler de tracteurs, vaches laitières, etc. Et ben, très souvent, on a la possibilité de mettre nos chiffres sur table et travailler sur nos comptabilités. C'est-à-dire que Arnaud disait, on a vraiment peu d'intrants, et bien ça, on peut le prouver qu'on peut aussi faire de l'herbe, vendre du lait, vendre des vaches de réforme, vendre des veaux, et bien sans acheter l'engrais du commerce, sans intrants chimiques, etc. Donc souvent, on gagne notre vie, c'est pas par le volume, c'est plutôt par la réduction des intrants.
Je voulais souligner que c'est quand même un enjeu majeur, la reprise des fermes en élevage, parce qu'en fait, on n'est plus à des fermes de 30 hectares et 20 vaches qui vont se transmettre et qui vont agrandir une ferme aussi de 20 hectares et 30 vaches. On est sur des fermes de 50, 80 vaches, 80 hectares, 100 hectares, qui vont venir grandir une ferme déjà de 100 hectares. Donc on rentre sur des systèmes à forts capitaux qu'on ne peut plus nourrir à l'herbe, parce que c'est trop loin les distances. Et du coup, c'est des fermes, en termes de transmission, ça pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, la solution à ces grosses fermes, c'est des investisseurs étrangers. Enfin, étrangers et pas étrangers, en tout cas des investisseurs. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui peut fonctionner, mais sans agriculteurs. Donc en fait, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut avoir des interlocuteurs qui sont sur le territoire, qui habitent sur le territoire, qui connaissent le territoire ? Ou est-ce qu'on veut s'adresser plus tard, quand on mène une politique publique environnementale, notamment à l'échelle d'une communauté de communes, à qui on va s'adresser quand on aura des fermes de 200 hectares et 200 vaches gérées par des investisseurs avec des salariés, ou des grosses boîtes hein, qui investissent dans ces fermes-là, avec des salariés simplement sur les territoires. C'est très très compliqué, c'est vraiment une question centrale pour la gestion des territoires et pour les élus. Et donc aujourd'hui, moi je voulais juste dire que c'est possible de s'installer en élevage, d'avoir une vie de famille, d'avoir des systèmes souples, d'avoir des systèmes qui, avec des emprunts qui peuvent ne pas être conséquents. Il y a plein de techniques qui existent pour reprendre une ferme avec, par exemple, des comme la Terre de Liens qui achète le foncier, voilà, sur lequel on achète moins le foncier. Enfin voilà. Et on peut s'organiser à plusieurs sur des fermes en élevage pour avoir une vie de famille et aussi pouvoir se dire, dans 10 ans, j'arrête l'élevage. On n'est plus sur le modèle familial de carrière très long sur lequel on fait fructifier un patrimoine qu'on veut céder et faire grandir encore. On est sur des porteurs de projets qui cherchent une souplesse parce que leur conjoint, il travaille à l'extérieur. Et si demain, il est envoyé à 200 km travailler, il faut pouvoir se dire, en fait, je te suis et je lâche ma ferme. Et on a des modèles qui existent de reprise de ferme qui permettent cette souplesse-là. Et il faut que les porteurs de projets vraiment se désacralisent l'élevage. Aujourd'hui, moi, je suis installé sur la ferme, je vis bien. J'ai deux enfants avec lesquels je passe beaucoup de temps. Dans 10 ans, si je veux partir, c'est simplifié pour moi et pour la personne qui reprend. Donc, il faut trouver des moyens de désacraliser et désamorcer les peurs en fait qu'ont les porteurs de projets. Et comme disait tout à l'heure Michel, souvent on se dit « non, je vais avoir que 5 vaches parce que c'est moins lourd ». Mais en fait, en avoir 5 ou 20... ou 30, c'est le même travail. Hein. Une vache, elle mange tant de kilos de matière sèche. Il faut la surveiller. Qu'on en surveille 5 ou 20, c'est pareil. Donc, en fait, il y a des systèmes comme ceux de Michel qui existent, qui sont rentables, où tout y est pour vraiment bien vivre son métier. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de ça.
Clémentine Lebon, pour terminer, peut-être qu'on peut aussi dire un mot sur justement les craintes qu'ont les paysans, les agriculteurs, les agricultrices qui ont une ferme et qui ont peut-être parfois l'impression qu'ils ne pourront jamais la transmettre.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paysans qui pensent que leur ferme elle est vouée à l'agrandissement et qui du coup ne se mettent pas en contact avec les structures qui pourraient les accompagner sur la transmission de leur ferme. Et c'est vrai que ça, il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment par le CIVAM 35 Installation Transmission en Ille-et-Vilaine. En fait, l'idée qu'on a, si sa ferme est transmissible ou pas, elle est vraiment propre à nous, à notre parcours, aux images que la société, nos proches peuvent nous renvoyer, à nos propres craintes. Et ça ne reflète pas forcément la réalité. Et en fait, toute ferme est transmissible, après pas forcément en l'état. Mais tout projet de transmission vaut le coup d'être réfléchi. Et du coup, ça vaut le coup de se mettre dans une démarche de transmission, d'y réfléchir et de travailler ce projet, même si on est persuadé que sa ferme n'est pas transmissible. et notamment si on croit qu'elle est trop petite.
Clémentine Lebon, vous êtes animatrice technique pour le CIVAM 56. Arnaud Robin, Michel Mauguin, je rappelle que vous êtes tous les deux paysans en bovin lait, respectivement à Questembert et aux Forges de Lannoué. Merci à tous les trois d'être venus à nos micros pour nous parler d'installation et de transmission dans le milieu agricole. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Merci.